Première partie. Le déni. Chapitre 1. Mon père s'appelle Jean, et c'est la seule chose qu'il fait comme les autres. Enfant, j'idolâtrais ce papa haut en couleur qui chantait à tue-tête au volant et nous servait un petit déjeuner au dîner. C'est dans ses bras que je me réfugiais, sur son dos que j'attaquais les dragons. C'est à lui que je dédiais mes dessins, pour lui que je récitais des poèmes. Adolescente, j'avais honte de ce père pas dans le rang, avec ses cheveux longs, ses shorts en jean et sa dégaine de prépubère, qui venait me chercher au collège à mobilette et parlait à mes potes comme si c'était les siens. C'est à son nez que je claquais la porte, sur lui que je criais. C'est à lui que je reprochais mes mauvaises notes, mon mal-être, mes échecs. Adulte, je l'aime, mais il m'exaspère, comme tout ce que je ne comprends pas. Il est mon exact opposé. Nous sommes dépareillés. Je prends soin de rester dans les lignes, de respecter les contours. Il déborde allègrement, et les contours. Il s'assoit dessus avec son short. Je suis en réunion quand son nom s'affiche sur l'écran de mon téléphone. Je ne l'ai pas vu depuis des mois, et comme à son habitude, il choisit le moment le plus inopportun pour se manifester. J'étouffe la sonnerie et adresse un sourire d'excuse à mes collègues. Mon père n'est pas le cheveu sur la soupe, il est la touffe entière. Il rappelle immédiatement. Je raccroche. Troisième tentative, les regards désapprobateurs me poussent à décrocher. Mon halo est si sec que je m'intimide moi-même. Dans le haut-parleur, ce n'est pas sa voix. Je bafouille une explication et quitte la réunion en catastrophe. Tout au long du trajet, mon imagination s'en donne à cœur joie. Le pompier m'a assuré qu'il n'y avait que des dégâts matériels, pourtant je ne peux écarter la possibilité qu'il attende que je sois face à lui pour m'annoncer le pire. J'envisage tout. Trouver mon père éploré, en état de choc, le voir blessé, peut-être pire. Tout, sauf ce qui m'attend. Dans son jardinet détrempé par les lances à incendie, sa maison calcinée en arrière-plan, mon père, aussi détendu qu'il est possible de l'être pour un vertébré, fanfaronne.
« Ça tombe bien, j'avais prévu de changer le papier peint !»
Tout le monde s'esclaffe, des voisins curieux aux pompiers. Alors, encouragé, il se tourne vers moi pour vérifier si moi aussi. Mon regard le reçoit comme il faut. Je suis tellement rassurée de le voir bien vivant que j'ai envie de le tuer. Loin de s'en formaliser, il avance vers moi en souriant. Je n'ai pas quitté ma voiture. Mes jambes flageolent trop.
« T'inquiète, microbe, c'est que du matériel. Ils ont absolument voulu prévenir quelqu'un, j'ai pensé à toi. Mais j'aurais pas dû. T'as autre chose à faire, hein? Tu vas bien ?»«
Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il hausse les épaules et passe sa main sur son crâne chauve.
« Apparemment, j'ai vidé le cendrier dans la poubelle de la salle de bain et il restait une clope mal éteinte.
J'étais en train de faire mes courses. C'est Madame Roustin qui m'a prévenue. Tu la connais, toujours derrière sa fenêtre, la vieille chouette. Geronimo a dû avoir peur, il était dans le salon. »
Il se tourne vers son chien, réfugié dans le jardin de la voisine, et lui adresse un geste de la main. L'animal remue la queue, et tout le corps avec. La gêne n'a pas le temps de s'installer. Tandis que les pompiers rangent leur matériel, un gendarme fait signe à mon père de s'approcher.
« Je te laisse. Ils vont m'expliquer toutes les démarches. Tu dois avoir du boulot, vas-y, je vais me débrouiller. »
« Je reste encore un peu. »
« Comme tu veux. »
À peine a-t-il tourné les talons que Madame Roustin, la voisine d'en face, apparaît à ma portière, un sourire navré sur le visage.
« Il y a longtemps qu'on ne t'a pas vue par ici, ma petite Juliane. » J'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances.
Depuis 30 ans que je la connais, cette femme n'a pas changé. Je la soupçonne d'être née vieille. Je la salue brièvement sans me faire d'illusions. C'est moins mon état qui l'intéresse que les informations croustillantes que je pourrais lui fournir et qu'elle pourrait à son tour dealer à tout le quartier comme de la bonne came. Elle n'a rien contre la délicatesse, mais avec parcimonie. Un mercredi de mon adolescence, peu de temps après la séparation de mes parents, me sachant seule à la maison, elle était venue me demander si je pouvais la dépanner d'un peu de sel, et, accessoirement, si je connaissais le nom de l'amant de ma mère.
« Tu sais ce qui s'est passé ? »
s'enquiert-elle en désignant la maison fumante de mon père.
C'est vraiment une cigarette ?
Aucune idée, il faudrait interroger la poubelle. Il faut plus qu'un sarcasme pour la décourager.
Je m'y attendais. Je suis même étonnée que ça ne soit pas arrivé avant.
Pourquoi vous dites ça ? Je regrette instantanément d'avoir mordu à son grossier hameçon. C'est Noël dans son regard.
C'est qu'il est un peu bizarre depuis quelque temps. Mais suis-je sotte ? Tu ne peux pas le savoir, tu n'es pas venue depuis des mois.
Bizarre comment ? Elle enfile une mine grave, regarde autour de nous pour s'assurer qu'aucune oreille indiscrète ne vole son exclusivité et murmure.
Nous savons, toi et moi, qu'il a toujours été un peu, disons, original. Mais ces derniers temps, il ondule sévèrement de la toiture. Il sort ses poubelles tous les soirs alors que les éboueurs passent le lundi et il oublie souvent de fermer les volets la nuit. Une fois, il s'est absenté en laissant la porte grande ouverte et l'autre matin, je l'ai vu partir à la boulangerie en pyjama. Je l'ai pris en photo, je ne revenais pas, mais ce n'est pas le pire.
Elle s'interrompt pour scruter ma réaction. Je m'empresse de la lui céder.
C'est quoi, le pire ?
Elle prend un ton obséquieux et se penche à mon oreille.
La semaine dernière, il était dans son jardin. Il a dû voir bouger mon rideau. J'ignore ce qu'il s'est imaginé. J'étais simplement en train de faire mon ménage. J'ai évidemment autre chose à faire qu'épier les gens. Bref, toujours est-il qu'il m'a adressé un signe de la main, puis il s'est retourné. Il a baissé son pantalon et il est rentré chez lui en dansant les fesses à l'air.
Je dois me mordre les joues pour ne pas rire en imaginant mon père remuer son cul nu face au visage outré de Madame Roustin. Pendant qu'elle poursuit la liste des petites excentricités de son voisin, j'observe ce dernier, posté près du véhicule des gendarmes. Avec son jean délavé, son pull bariolé et ses baskets, il ne fait pas ses 67 ans. C'est l'un de ses petits plaisirs, donner son âge, et s'entendre dire qu'il paraît plus jeune. Peut-être a-t-il un peu maigri, lui qui était déjà très fin. Il aurait aimé être plus costaud, mais la nature l'a doté d'un long corps noueux. Dans sa jeunesse, ses amis le surnommaient Cigogne, le complexant profondément.
« Tu n'es pas inquiète ?»
m'interroge Madame Roustin.
« Pas vraiment, comme vous le dites, il a toujours été un peu original. »
Elle écarquille les yeux.
« Tout de même !» « Dois-je te répéter le spectacle qu'il m'a offert ?»«
Non, merci, je l'ai bien en tête. »«
Bien, de toute manière, ce n'est plus mon affaire. Je ne le reverrai pas de si tôt. »«
Ah, vous partez ?»
Question polie dont la réponse m'importe peu. Je ne lui consacre qu'une oreille distraite, prête à l'entendre m'exposer un séjour chez son fils ou une cure thermale pour ses rhumatismes. Mais non, pas de séjour, pas de cure. Comment n'y ai-je pas pensé avant ? Ce n'est pas elle qui part, évidemment. Avec la moitié de sa maison détruite, mon père ne peut pas rester là. Simultanément, la voix de Madame Roustin et ma conscience me posent la même question.
Tu vas le prendre chez toi ?